Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Épisode 4, inventer l'avenir.
En fait, j'ai tout de suite demandé quelles étaient les solutions pour moi plus tard. Et donc, il y avait soit l'EHPAD, si on avait de la chance avec dérogation d'âge, soit l'hôpital psychiatrique. Alors, ça a le mérite d'exister, hein. Mais j'avais envie d'un avenir un peu plus sexy.
Blandine Prévost, 46 ans, cofondatrice de l'association Amadiem.
Moi, j'ai appris... au début, on a rencontré pas mal de personnes malades et jeunes. Et j'ai découvert plein de personnes qui me disaient « Bon, moi, je suis pas malade, j'ai des difficultés, mais je suis pas malade. » Il n'empêche que le jour où il se passera ça, j'ai prévu de me suicider. Et donc, j'ai appris plein de méthodes de façon de se suicider, parce qu'effectivement, les gens n'avaient pas envie de vivre la dépendance. Personne n'a envie de subir ça.
Ce récit de Blandine Prévost a résonné profondément en moi. J'ai revu la fin de vie de mon grand-père dans l'unité fermée de la maison de retraite, étendue sur son lit, incapable de parler, me serrant parfois la main très fort. Chaque matin, en me réveillant, une question m'obsède. Comment préparer au mieux, avec ma mère, un bel avenir? On n'a pas vraiment l'embarras du choix. En France, les établissements médicalisés dédiés aux personnes jeunes se comptent sur les doigts d'une main. Pour ce documentaire, je n'ai pas souhaité me rendre en EHPAD. Peut-être parce que c'est une réalité que j'ai trop bien connue. Peut-être aussi parce que j'ai encore du mal à y associer le destin de ma mère. Mais avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai souvent évoqué ce que j'appelais pudiquement la suite. Assina et Frédéric Coutant, eux, ont choisi de prendre les devants.
Là, on est dans la maison, mais bon. Alors, la maison, c'est agréable. C'est agréable, mais ça va être dur à gérer quand la maladie va évoluer. Donc là, on a acheté un appartement avec un plan, je dirais, spécifique Alzheimer, c'est-à-dire qu'il est assez carré.
Du coup, c'est les plans que je vois là ou pas?
Oui, c'est ça.
je peux regarder.
À quelques rues de leur maison familiale, Assina et Frédéric aménagent un nouveau lieu de vie.
La salle de bain et les toilettes. Donc en fait, ici, il y a des lumières automatiques, ce qui fait que quand on se déplace dans l'appartement, les toilettes s'allument tout le temps. On sait qu'après, à terme, l'Alzheimer, il ne trouve plus les toilettes. C'est ça la grosse source de notre problème. Donc là, en fait, automatiquement, on est guidé vers les toilettes. Puis là, le fait d'avoir cet espace est ouvert, là, il y a quand même un petit coin bureau avec une demi-cloison, mais ça permet que même si moi, je veux travailler, dessiner, la personne qui est dans le salon vous voit automatiquement. Et ça crée quand même un petit espace pour que chacun soit un peu dans son intimité. Il faut qu'il y ait une fonction à un endroit.
Ah ouais, vous avez bien bossé, quoi.
Moi, c'est pas moi. Je suis pour rien.
Fred a bien bossé.
Mais anticiper seul n'a rien d'une évidence. Surtout quand on se retrouve confronté au silence des médecins.
Je trouve qu'il y a un souci dans l'affaire, enfin, pour notre cas du moins. Comment ça s'est fait? Je rends franchement une impression que le milieu médical ne voulait pas donner des réponses à ce question qu'on a tout de suite, quoi. Quand on demande l'évolution de la maladie, ils refusent absolument de donner aucune information sur l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que quand on va sur Internet, on se rend bien compte que c'est entre 8 et 15 ans, enfin, en moyenne. Quand vous demandez aux médecins, ils vous disent mais rien. Ils ne vous disent pas si c'est 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a aucune réponse. C'est démerdez-vous. Et puis voilà, quoi. Donc après, tout le monde va sur Internet et vous prenez tout dans la gueule sur Internet. Alors je sais pas à quoi c'est dû. Si c'est parce que d'habitude les placements sont plus âgés, c'est peut-être une réponse.
Oui, mais on est des ovnis.
On est des ovnis. Je veux dire, à l'échelle de Rennes, on est très peu, quoi. On est, je sais pas, on faudrait peut-être faire une stat de.
Des personnes
mais, jeunes.
Ouais, ouais, les personnes jeunes. On est quoi, 10
Enfin, sur la région, on les aide.
Et
donc,
vous avez l'impression que les médecins, ils pensent que vous êtes des ovnis.
Non, c'est moi qui le pense, parce que je me sens comme un ovni par rapport à la maladie.
Cette colère et ce désarroi de Frédéric et Assina Coutan face au manque d'informations et de solutions, je les comprends. J'en ai aussi fait l'expérience et j'ai vécu cette frustration de me sentir tellement désarmée. J'ai voulu savoir ce qu'il se passe du côté des médecins quand ils sont confrontés aux interrogations de leurs patients.
Après ce qui est la question de la fin de vie...
Docteur Stéphanie Bombois, neurologue à la Salpêtrière.
Si on me pose la question, j'en parle, mais finalement, c'est assez peu abordé, on va dire un peu frontalement, quoi, en consultation.
Et si on vous pose la question, vous dites quoi, du coup ?
Je vais devancer certaines questions quand je sens que c'est indispensable d'en parler. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui sont difficiles et j'attends que ça vienne dans la conversation. Mais quand ça vient dans la conversation, par contre, je dis les choses... J'essaye de le dire le plus naturellement possible et le plus franchement possible.
Pardon, c'est pas très gai, mais ça veut dire quoi, décédé d'Alzheimer ? Parce que, dans l'idée commune, on se dit, on va tout oublier, mais en quoi on peut en mourir ?
Alors, en fait, oui, le problème, c'est que au cours de la maladie d'Alzheimer, on a une atteinte du cerveau dans son ensemble. Et le cerveau, il ne gère pas que la mémoire, il gère aussi nos mouvements, il gère nos fonctions vitales. Et avec la maladie, il y a des fonctions vitales qui vont donc s'amenuiser. Les patients peuvent avoir moins faim, ne plus avoir envie de manger. Ils peuvent avoir des difficultés pour se déplacer, se lever et du coup devenir ce qu'on appelle grabataire et rester assis ou au lit.
Si j'ai l'Alzheimer, il faut qu'on me supprime, m'avait dit ma mère la veille de son diagnostic. Cette phrase m'avait sidérée. Je crois que j'avais fait une blague pour éviter d'y répondre. Je me suis depuis souvent demandé si certains patients jeunes poursuivaient cette démarche. Si la souffrance psychique était parfois trop insupportable et comment ça se passe dans le cas d'Alzheimer en France. C'est un sujet pour moi presque impossible à aborder. Il appartient de façon tellement intime à chacune et à chacun. Il soulève tant de questionnements. Il me fait trembler. Pourtant, pendant des mois, il m'a hantée.
J'ai été confrontée, effectivement, dans ma carrière, à des gens qui souhaitaient être euthanasiés. Alors, bien sûr, c'est légalement interdit en France. Des gens qui ont fait des démarches en Belgique et qui pour autant n'ont pas été jusqu'au bout. Je pense que c'est inhérent à la maladie. Donc voilà, c'est vrai que les patients peuvent avoir des directives aussi anticipées, bon, pas par rapport à l'accompagnement s'ils étaient malades autrement, enfin voilà, mais pour leur fin de vie, c'est par rapport à l'euthanasie, c'est des choses qui sont plutôt rarement évoquées par les patients directement ou leur famille, mais là encore, voilà, on essaye de discuter ensemble, de préparer ces moments le mieux possible.
Après beaucoup de réflexions, je me suis décidée à contacter le docteur Yves Delocht. Ce médecin belge pratique depuis 10 ans l'euthanasie dans un cadre légal à Bruxelles. Il reçoit tous les jours des demandes venues de France.
J'ai accompagné des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des cas plus compliqués. Les critères à remplir sont sévères, difficiles. Mais bon, oui.
Est-ce que vous pouvez me parler justement de ces critères qui sont spécifiques à cette maladie ?
disons, les critères de la loi belge sont valables pour toutes les maladies ou affections. Hein. Les critères de la loi belge, rapidement les répéter. Il faut une demande écrite, datée et signée du patient. Il faut qu'il soit atteint d'une affection, ça veut dire maladie ou suite d'un accident, une affection grave et incurable, la troisième condition, des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. La loi belge oblige à ce que la demande d'une euthanasie soit faite au moment où vous avez vos capacités intellectuelles, sinon ça n'est pas valable. Donc soit le ou la patiente fait cette demande à l'annonce du diagnostic. Soit la personne peut encore faire cette demande dans cette deuxième phase où elle est en période « ça va, ça va pas ». Troisième phase, c'est trop tard.
Aujourd'hui, Yves Delort ne souhaite plus pratiquer d'euthanasie sur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais dans sa carrière, il a rencontré une patiente jeune.
Ça a duré des années avant d'arriver à la conclusion qu'on entrait dans le cadre de la loi. Elle menaçait tout le temps de suicide. Elle me disait, si vous ne m'euthanasiez pas, je vais me suicider. Les démarches ont été longues. Et c'était une Bruxelloise. Nous l'avons euthanasiée chez elle, dans son appartement. Oui. Je n'oublierai jamais cette personne-là. C'était assez impressionnant, oui.
C'est-à-dire parce qu'elle répétait beaucoup cette demande malgré la dégradation ou...
Elle répétait, je dirais, 5-6 fois par an sa demande, mais la maladie d'Alzheimer ne l'empêchait pas de voyager. Par exemple, elle voyageait en Italie avec son mari, elle m'envoyait des cartes postales en me disant « si vous ne me donnez pas une réponse, je me jette contre un mur avec ma voiture, j'ai jamais oublié ce genre de choses ». Donc la maladie d'Alzheimer n'altère pas vos capacités physiques, vous avez l'air bien encore. Et les gens ne comprennent pas ça.
Et pour vous, du coup, c'est pour ça que c'était si difficile de prendre cette décision et que ça a pris plus de 3 ans, comme vous le disiez ?
C'est difficile d'abord émotionnellement, mais bon, moi je veux avant tout respecter les critères de la loi belge. Et donc je ne veux pas sortir du cadre défini par la loi. Et c'est difficile, mais cette patiente était en très grande souffrance. Elle m'écrivait des lettres en disant « je suis seule, je n'ai plus que mon chien à qui je peux parler ». Elle me répétait souvent que sa famille ne comprenait pas sa maladie. Et ça, je trouvais que c'était des phrases très importantes. On a évoqué le sujet. L'entourage ne comprend pas très bien. Sauf qu'il se rend compte qu'on oublie tout ou d'autres symptômes, mais c'est mal perçu par les autres. Et c'est une maladie qui, j'en suis de plus en plus persuadé, entraîne une grande souffrance psychique.
Si j'ai Alzheimer, je me tue. Cette phrase que j'ai entendue comme une blague dans la bouche de certains proches me blesse. Après tout, que savent-ils d'Alzheimer ? De quoi cette peur est-elle le nom ? En côtoyant de très près la maladie, je me dis que cette souffrance invisible face à l'oubli, cette peur de la dépendance et de la différence, sont aussi liées à l'intransigeance de la société dans laquelle nous vivons, à sa violence aussi. J'en ai parlé avec Véronique Lefebvre-Desnoëttes, psychiatre.
La valeur clé aujourd'hui, c'est l'autonomie. Hein ? Il faut être autonome. Autonomos, se donner à soi-même sa propre loi. Et la dépendance, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs, psychiques, somatiques, on ne veut pas les voir. La société, c'est une société liquide, c'est une société de l'accélération, c'est une société qui va vite, qui n'est pas faite pour les gens qui ont des difficultés. Or, c'est une utopie de penser qu'on ne peut pas dépendre. L'homme naît le plus vulnérable au monde puisqu'il naît nu. Et il a besoin de bien plus qu'une vêture, de la chaleur et de la nourriture. Il a besoin d'amour. Sinon, il meurt. Hein, les personnes âgées, c'est exactement la même chose. Et les malades jeunes, c'est pareil. Donc, arrêtons avec cette valeur culte. On ne peut pas passer sa vie à être gagnant-gagnant, autonome, et dire la dépendance, c'est pour les nuls. Non, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre finitude aussi. Et le nier, c'est... croire aux utopies transhumanistes qui sont complètement infantiles, hein, qui sont complètement délétères et qui sont certainement pas pour tous.
C'est en fait c'est Carpe Diem qui m'a sauvé la vie, moi. La certitude que jusqu'au bout, je serai considérée comme une personne et que c'était possible. Et c'est ça qui, fondamentalement, à changer ma façon de faire en me disant bah oui, ma vie sera encore. Ça vaudra encore le coup de vivre, même quand j'aurai des difficultés, parce que peut-être que j'oublierai les noms, mais ça m'arrive d'oublier les noms de la personne qui est en face, ou je par connaître la personne qui est en face. Mais quand elle est importante pour moi, je ne sais pas comment elle s'appelle peut-être, mais je sais qu'elle est importante pour moi. Et ça, ça donne de l'espoir.
Soutenus par leurs amis ingénieurs, Blandine et Xavier Prévost se lancent un pari un peu fou. Créer une maison habitée par des personnes jeunes, à Crôle, dans la région grenobloise. Avec un principe fondateur, que les personnes se sentent chez elles. Que, contrairement aux établissements médicalisés, il n'y ait pas d'unité fermée ou de porte barrée par des digicodes. Que les habitants et les habitantes soient libres d'aller et venir, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.
Donc à chaque fois qu'on nous disait « c'est pas possible en France », on disait « bah pourquoi ?» Bête, hein, mais « pourquoi ?» Bah parce que ça se fait pas. Oui, mais il y a une différence entre « ça ne se fait pas » et « c'est pas possible en France ». Mais on n'est pas fou.
Une maison, donc, pour recevoir ses proches, se reposer, cuisiner. Une maison pour vivre, tout simplement. En février 2016, des habitants, et même quelques poules, ont emménagé dans les 27 chambres de la maison de Kroll, entourées de montagnes verdoyantes.
Mais c'est magique de voir à quel point l'approche, ça fonctionne. Que ce qu'on avait imaginé, ça fonctionne. Enfin, que donc on est passé d'un rêve entre guillemets à une réalité, et la réalité est belle. Et aujourd'hui, quelque part, on a fait ces maisons. Moi, j'ai voulu que ces maisons existent pour pas enchaîner mes enfants et mon mari à ma maladie, à ma dépendance. Et mes enfants s'envolent un peu trop loin. Mais c'est bien la preuve qu'ils se sentent libres de vivre leur vie parce qu'il y a les maisons et qu'ils savent qu'on y est bien. Jean-Yves, est-ce que ça ressemble à une maison, une maison ?
Alors là, ici, là-bas. Ouais, mais là, bah, moi, je sais ma mesure, voilà, simplement. Mmh. Et là, je suis, c'est là, un autre, il est là, et ils sont, on est tous ensemble.
Vous imaginez la chance qu'on a de le rencontrer, cet homme-là ? Hein ? Je trouve que j'ai bien la chance de t'avoir rencontré. Me sens chanceuse que tu sois dans ma vie.
Bah,
quoi, hein, ouais. La maladie, hein. Ça fait vivre des... Ouais. Ça fait grandir.
Cette rencontre avec Blandine Prévost, les habitants, les salariés de l'association Amadiem m'a donné beaucoup d'énergie. Comme un shot d'espoir et de force vive pour faire face à la progression de l'oubli. Peut-être parce que Amadiem, ça veut dire
aime le jour. Il y a un côté urgent et impératif. Il faut pas, on veut pas avec et malgré la maladie. C'est vraiment la vie jusqu'au bout et la vie qui doit gagner, la maladie gagne pas.
Et je crois que c'est ça que m'a appris ce documentaire, que m'apprend ma mère, que m'ont appris toutes les personnes qui ont accepté de parler derrière ce micro. C'est qu'il y a urgence dans nos sociétés, face aux personnes jeunes comme aux plus âgées, à apprendre à vivre avec l'oubli, à repenser nos organisations, la façon dont nous accueillons les plus fragiles, dont nous acceptons l'entraide. Urgence à apprendre à regarder autrement. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois, dans les années à venir. l'heure actuelle, et malgré toute ma bonne volonté, ma mère et moi n'avons pas trouvé de solution miracle. Le présent se vit au jour le jour, l'avenir se bâtit, pierre après pierre. Mais depuis le tournage de ce documentaire, je sais aussi que je me sens davantage prête à vivre ce qui nous attend. Parce que j'ai compris que la mémoire, ce n'est pas se souvenir précisément d'une date ou d'un visage. La mémoire, c'est un geste, c'est un rayon de soleil sur la peau. La mémoire, c'est une chanson qu'on fredonne encore et encore. Parce que j'ai compris que la vie, même si on balaye les souvenirs, qu'on dissipe les rituels, ça ne s'efface pas de la peau. Jamais. Qu'il y aura toujours quelque chose à voir.
C'est pour une aventure que nous avancions. Plus la mer était dure, et mieux nous vivions. Et quand on soit tranquille, on se retrouvait. Magique et facile, c'était nos belles et hauts. Souvenez-vous-en, n'oubliez pas trop. J'ai glissé nos vêtements dans ces quelques mots. Croyez-vous qu'on oublie son cœur? Avec vous, j'ai compris le bonheur, nos rires, nos folies. Sur un fond de ciel, notre île est jolie. La mer était belle, nous avions encore l'âge d'aimer pour de vrai. Et de tous ces naufrages, nos cœurs se riaient. Mais Dieu, que c'est dommage, vous avez grandi. Vous n'êtes plus sauvage que le samedi. Mes amis d'autrefois, nous voici au sec. Nous rêvons quelquefois de l'île de Rennec. Il fallait naviguer sans plus. Si j'avais su, je m'y serais noyé. Pour ne pas vieillir, pour ne jamais changer, pour n'en plus partir. Mes amis que j'appelle, mes amis perdus. Dieu que la mer est belle, quand on navigue plus. Oh, que la mer me manque, que la mer est loin. Oui, la mer me flanque, un fameux coup de chien. Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler.
Merci à Agathe Charnay pour cette série réalisée par Geoffrey Puig. Merci également à Alexandra Ortiz-Caria, à Maya Ernest, à Augustin Charnay et à Claude-René Roubinet. Ce projet a été soutenu par l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et par le ministère de la Culture. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.